Sons d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième jour de rentrée pour Accent. L'Allemagne serait-elle en train de s'enfoncer en ce moment dans la psychose ? On pourrait le croire, après la présentation il y a quelques jours par le gouvernement d'un plan de défense civile. Un plan qui préconise notamment que les Allemands stockent eau et vivres en cas d'attentat ou autre catastrophe. Le projet a d'ores et déjà suscité les railleries de la presse et des internautes. Corinne Fugler, elle, s'est rendue dans la zone commerciale de Sundheim, à une quinzaine de kilomètres de Strasbourg, de l'autre côté de la frontière, pour voir si les consommateurs avaient adopté les consignes de Berlin.
Le gouvernement allemand demande à tous les citoyens de stocker de quoi se nourrir pendant 10 jours. Les familles sont censées entreposer chez elles une dizaine de litres d'eau par personne, des vivres pour tous et des médicaments. À l'accueil du supermarché Kaufland de Sundheim, les vendeurs n'ont pas constaté de rush. Loin de là, le rayon des eaux minérales est bien achalandé, c'est la canicule, mais personne ne se précipite sur les conserves. D'ailleurs, Arlette, 68 ans, a toujours chez elle des réserves de pâtes et de farine.
Je ne m'inquiète pas. J'ai toujours un peu de pâtes ou de la farine, du sucre. À la maison, on stocke, mais sinon, non. Je n'ai pas fait plus de stock qu'avant.
Parce qu'il y a une vingtaine d'années, déjà, les Allemands avaient consigne de garder des stocks à la maison.
Jamais fait, moi. Ça ne m'a jamais intéressé, j'ai jamais eu peur. Quand ça vient, ça vient.
Donc vous avez fait des courses tout à fait habituelles.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Ce plan de défense civile date en effet de 1995. Il a été réactualisé, mais la génération d'Allemands qui a connu la guerre froide ne se laisse pas impressionner par ces nouvelles consignes. Boud a dépassé la soixantaine. Lui non plus ne changera pas ses habitudes.
Non. Et c'est ce que je connais aussi. Hier, on a discuté, on était 5 couples, puis personne ne fait. Vous savez, les dernières années, on ne l'a pas fait. Pourquoi on le fasse maintenant ?
Parce qu'il y a une vingtaine d'années, ça se faisait.
Ouais, mais c'était pas le même temps. Maintenant, on a des congélateurs. Bon, s'il n'y a pas d'électricité, ça ne marche pas.
Outre Rhin, on reproche au gouvernement d'alimenter la peur. C'est aussi le sentiment de Boud.
Ça, ils font peut-être aussi pour les vôtres. Maintenant, ils font pas assurer les gens, hein, parce que c'est tout. Hein. On assure les gens, mais vraiment, ça sert à rien. Même si je regarde ici la frontière à Strasbourg, la frontière est bloquée. Il y a tout plein à côté. S'il y a personne.
Sur Twitter circule déjà un hashtag Hamsterkauf, littéralement achat de hamster, une expression qui signifie faire des réserves. Les internautes postent toutes sortes de photos de hamsters ou proposent leur propre kit de survie pour aborder la fin du monde.
Et pendant ce temps, la Turquie, elle peine à se remettre d'un été particulièrement sanglant. Deux gros attentats attribués à Daesh, un putsch manqué mi-juillet, des événements dramatiques qui ont encore renforcé les velléités autoritaristes du président Erdogan, qui n'hésite pas à réhabiliter les fonctions et vérités de l'Empire ottoman. C'est le cas des Muhtar, ces maires de quartier, qui s'occupent essentiellement de l'état civil. Le président turc organise désormais une grande rencontre dans son palais chaque mois. Il y invite plusieurs centaines de Muhtar et il appelle ouvertement ses élus locaux, notamment dans les régions kurdes, à agir comme relais et informateurs de l'État. C'est le reportage d'Anne Anglauer.
Murat Akverdi, la quarantaine, une moustache et un grand sourire, reçoit dans un local flambant neuf, derrière un bureau chargé de paperasses et de plaquettes de remerciements. Dans la Turquie contemporaine, le Muhtar se traduit au mieux comme le maire du quartier ou le maire du village dans les zones rurales. Le pays compte 54 000 Muhtar, dont Murat Akverdi qui est aussi le président de l'association des Muhtar de Fatih, l'un des plus anciens et plus grands arrondissements d'Istanbul sur la rive européenne. Le bureau de l'association est installé au cœur de Fatih, entre une épicerie et une boulangerie. Murat, le Muhtar, insiste sur cette proximité.
Dans son quartier, le Muhtar est tantôt un frère, un fils, un père, un oncle. Il est le pont entre l'État et la population. C'est un rôle essentiel, sacré, je dirais même. Vous êtes là, à toutes les étapes de la vie, dans la naissance comme dans la mort. Vous aidez parfois les voisins, les familles à se réconcilier.
Murat est fier de rappeler que sa fonction existe depuis l'époque ottomane, même si elle a changé depuis. Les mourtars d'aujourd'hui dépendent du sous-préfet. Il dispose d'un sceau officiel grâce auquel il délivre quelques documents administratifs en lien avec l'état civil. Le mourtar est un personnage étonnant, hybride. Il reçoit un petit revenu de l'État, mais il n'est pas fonctionnaire. En même temps, comme n'importe quel maire, il est élu tous les 5 ans par les habitants de son quartier. Mais à la différence du maire de la ville ou des arrondissements, il ne se présente pas sous les couleurs d'un parti. Il est élu et souvent réélu grâce à sa notoriété dans le quartier. Comme Murat Akverdi, qui occupe son fauteuil depuis bientôt 15 ans, les mourtars de Turquie aiment donc se décrire comme indépendants et apolitiques.
Nous sommes proches mais à égale distance de tous les partis. Il ne peut pas en être autrement puisque nous sommes élus par les habitants du quartier et non par les électeurs d'un seul parti. Mais vous reconnaîtrez avec moi que ces dernières années, le mourtar est devenu de plus en plus important grâce à notre président Recep Tayyip Erdogan.
En effet, depuis que Recep Tayyip Erdogan est au pouvoir, et en particulier depuis qu'il est devenu en 2014 le premier chef d'État élu au suffrage universel, les mourtars jouissent d'une visibilité inédite. Régulièrement, le président invite dans son palais à Ankara plusieurs centaines de mourtars, auquel il délivre un discours retransmis en direct à la télévision. Il a déjà organisé une vingtaine de ces rencontres, totalement inédites dans l'histoire politique turque. La politologue Merve Özdemirkeran analyse le lien inédit entre le président et ceux qu'il appelle ses chers mourtars.
C'est quelqu'un qui fait partie du quartier, le mourtar, donc c'est un homme simple. Ce sont des gens du peuple. Et Erdogan, il veut justement être toujours près des gens du peuple. Et son message politique, depuis qu'il est au pouvoir et avant de venir au pouvoir, il voulait toujours attirer l'attention de ce type d'électeur. Il y a une sorte d'identification, évidemment, non, c'est clair.
Identification, car Tayyip Erdogan a commencé sa carrière politique dans l'administration locale, puis comme maire d'Istanbul entre 1994 et 1998. Cette année-là, Erdogan a passé 4 mois en prison après avoir lu en public un poème religieux. À l'époque, certains journaux avaient titré « Désormais, il ne pourra même pas être mourtar ». Murat Akverdi, officiellement apolitique, est un admirateur déclaré du chef de l'État. Le mourtar s'est rendu l'an dernier au palais présidentiel.
D'un côté, vous avez le mourtar, le plus petit niveau de l'État sur l'échelle électorale. Et en face, le président de la République, le plus haut niveau, élu au suffrage universel. C'est la rencontre du peuple et du président. Quand vous allez au palais, vous vous sentez spécial, valorisé.
Derrière cette valorisation du mourtar, la politologue Merve Özdemirkeran décrit un calcul politique.
Je pense que c'est lié un petit peu au nouveau statut de président Erdogan. Il est un peu, entre guillemets, enfermé dans le palais présidentiel, ce qui n'était pas le cas avant. Je pense que les mourtars sont une grosse source d'information pour Erdogan et aussi c'est une grosse source de passer ses messages au niveau local.
Messager et informateur, cette dernière mission est particulièrement mise en avant dans les régions du sud-est kurde où les forces de sécurité affrontent quotidiennement le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Le président Erdogan a publiquement demandé aux mourtars de ces régions de rapporter à l'État la moindre information concernant le PKK et ses partisans. Murat Akverdi confirme et approuve.
Au palais, le président nous parle des problèmes actuels du pays, du terrorisme, évidemment. Il nous demande de signaler les gens à l'attitude suspecte dans nos quartiers. Des terroristes potentiels, des trafiquants de drogue. Il nous dit, n'ayez pas peur, l'État est fort et il est derrière vous. Qu'y a-t-il de plus naturel que cela ?
À l'heure où Tayyip Erdogan réfléchit aux moyens d'organiser un référendum pour instaurer un régime présidentiel, les mourtars pourraient également être mis à contribution comme messagers pour raconter dans les quartiers les bienfaits de ce nouveau régime. C'est en tout cas ce que craignent les détracteurs du président.
Rien ne va plus entre la maire de la capitale espagnole et sa police. Les syndicats l'accusent d'être trop tolérante avec la vente ambulante qui favoriserait les beuveries de jeunes dans les rues tous les week-ends. Mais l'exaspération est encore montée d'un cran depuis que l'ancienne juge Manuela Carmena, proche de Podemos, a proposé carrément d'impliquer les citoyens dans la sécurité. François Musso nous appelle de Madrid.
Juge populaire, intermédiaire, citoyen tampon, responsable sécuritaire d'un pâté de maison, les noms varient pour la mairie de gauche radicale. Mais il s'agit bien d'une invention, d'une fonction qui n'existe nulle part ailleurs en Espagne et sûrement pas non plus dans la plupart des pays occidentaux. De quoi s'agit-il ? d'une occupation étrange, une sorte de médiateur entre les policiers et un quartier ou une zone socialement conflictuelle. L'idée, à en croire la maire et son élu en charge de la sécurité, un ancien prêtre ouvrier, est de tenter de résoudre les conflits en amont, préventivement, dans les quartiers difficiles de la capitale. Dès qu'il y a une dispute concernant le bruit de supposées agressions, une rivalité entre différentes communautés, un danger possible, ce citoyen interviendrait pour désamorcer le conflit en question. Ce citoyen ne serait pas payé, il serait nommé par les services sociaux de la mairie. Au total, il pourrait être une cinquantaine dans toute la capitale et il serait chargé, en cas de difficulté, d'alerter la municipalité qui se chargerait ensuite d'organiser une réponse policière ou autre. Or, ce projet rend folle de colère la police municipale. On veut carrément se substituer à nous, enrage le responsable du principal syndicat. C'est une façon de nous discréditer et de dire que nous faisons mal notre travail. C'est, je cite toujours, inacceptable. Il n'y a pas que la police qui se plaint. Toute l'opposition municipale aussi se montre véhémente. On veut mettre en place des commissaires politiques, vitupèrent les centristes, ou, comme dit la droite, des espions de quartier, comme à Cuba ou au Venezuela. Pour l'heure, le projet n'a pas été entériné par la maire Manuela Carmena, mais déjà, les esprits sont à couteau tiré.
C'est une mauvaise nouvelle pour Marseille. Deux consulats ont été fermés cet été dans la cité phocéenne. En cause, les difficultés financières que traversent les deux pays concernés, Israël et la Grèce. Stéphane Burgat, la disparition de la représentation grecque en particulier est même hautement symbolique.
Pour une ville fondée il y a plus de 2600 ans par des marins grecs, les Phocéens, d'où le surnom de cité phocéenne. Une dalle en cuivre, d'ailleurs, le rappelle aux passants qui foulent le vieux port. Et en effet, eh bien, cette nouvelle a de quoi surprendre, car entre Marseille et la Grèce, les liens sont historiques. Ils sont également d'actualité, que ce soit au niveau des échanges culturels que de l'économie sur le port, par exemple. Le consulat grec est implanté ici depuis 1834 pour une diaspora qui est évaluée entre 10 000 et 12 000 âmes dans la ville, 30 000 personnes en tout dans le sud de la France. Une fermeture avait déjà été évitée dans le passé. Le consulat avait alors été épargné au prix de restrictions. Fini le cossu quartier des avocats pour un déménagement dans la résidence du consul et une représentation réduite à sa plus simple expression, un bureau et quatre personnes pour gérer une zone comprise en dessous de l'axe Lyon-Bordeaux. C'est un consulat qui ne coûtait vraiment pas cher, a déclaré le consul résigné dans la presse locale.
En tout cas, cela risque de compliquer la vie des ressortissants grecs à Marseille et en fait dans tout le sud de la France.
Oui, car sans parler du volet coopération décentralisée, le consulat gère les questions d'état civil, les renouvellements de passeports et aussi du service de visa pour les ressortissants étrangers qui en auraient besoin pour des raisons personnelles ou professionnelles. Eh bien, il leur faudra tous à l'avenir se rendre à l'ambassade à Paris.
Et la Grèce n'est pas la première à prendre ce genre de décision.
Non, et peut-être ont-ils été inspirés par le choix de l'État d'Israël. Même schéma des précédentes menaces de fermeture en 2002, en 2009. Une forte mobilisation à chaque fois qui avait permis de trouver une oreille attentive auprès du ministre des Affaires étrangères alors en poste. Et là, des élus de droite comme de gauche, des élus locaux comme des patrons de collectivités territoriales ont écrit à Benjamin Netanyahou pour lui demander de revoir sa position et un compromis a finalement été trouvé. Un bureau restera ouvert, il sera hébergé par le centre culturel juif de la ville et le consul fera le voyage tous les mois depuis l'ambassade parisienne. Beaucoup d'incompréhension là encore, les militants évoquent un non-sens économique puisque l'activité consulaire reste la même. Il faudra de toute façon du personnel pour la gérer, ce qui fait dire à beaucoup, pour les deux exemples, grecs et israéliens, que cette situation n'est pas tenable et qu'une réimplantation devrait être envisagée un jour ou l'autre.
Stéphane Burgat à Marseille. C'est encore les vacances pour certains chanceux et ils sont de plus en plus nombreux à choisir des destinations insolites. Alors pourquoi pas les Açores? Une végétation luxuriante, des paysages vallonnés, des piscines naturelles, des cratères volcaniques. Ces îles perdues dans l'Atlantique, plutôt associées à l'anticyclone, sont un paradis pour les amoureux de la nature. À 2 heures de vol de Lisbonne, 2 compagnies aériennes low cost sont arrivées à Ponta Delgada, la capitale de l'archipel, avec pour conséquence un bond de plus de 30% du chiffre d'affaires du secteur hôtelier. Une aubaine, bien sûr, pour la filière touristique, mais aussi un risque pour l'environnement. Anastasia Becchio s'est rendue sur place.
Un liquide gris et bouillonnant qui jaillit des entrailles de la terre, des fumerolles qui s'échappent d'un sol jaunâtre. L'activité volcanique autour du lac de Furnas, dans le centre de l'île de San Miguel, attire de nombreux touristes portugais et étrangers qui assistent au spectacle de la nature depuis des passerelles en bois. Rogério Mendonça est le responsable du site.
C'est l'un des sites les plus visités des Açores, si ce n'est le plus visité. Ces derniers mois, nous avons constaté une augmentation du nombre de touristes. Il y a deux raisons à cela. Les Açores deviennent à la mode et les compagnies low cost ont fait leur arrivée. Le tourisme, c'est bien, mais nous redoutons que les gens commencent à arriver en masse, parce que si trop de gens commencent à venir ici, ce que les touristes viennent chercher ici, le silence, ils ne le trouveront plus.
Good morning everyone. My name is Jasmine.
Au petit matin sur le port de Ponta Delgada, petite séance d'explication pour un groupe de touristes portugais et néerlandais avant une sortie en mer pour admirer dauphins, cachalots et baleines. Jasmine Siriba, spécialiste de la faune marine et gérante de Sea Colors, la société qui organise cette sortie en mer, observe le développement du tourisme avec inquiétude. Je ne pense pas que ce soit un lieu pour le tourisme de masse. Nous en voyons déjà les premiers effets dans notre domaine. Il y a plus de bateaux en mer et ils sont plus grands. Les Açores ont une très bonne image grâce à la nature et le fait de développer le tourisme peut mettre tout ça à mal. Ils pourraient être tentés d'en faire une nouvelle Madère et ça serait dommage. Ça n'est vraiment pas une bonne idée.
Il s'appelle Vin Abafado. À notre santé.
Vin maison, mais aussi légumes biologiques et ambiance authentique. C'est ce que propose aux touristes Anselmo Moreira dans sa quinta, sa villa traditionnelle, sur la côte nord de l'île. Lui aussi redoute un peu que l'île ne se transforme sous l'effet du tourisme de masse.
Les touristes choisissent de venir ici pour la nature, une vraie nature, authentique, qui n'a pas été transformée. Ils viennent pour les randonnées ou juste pour écouter les oiseaux, parce que parfois, dans les grandes villes, ils ne trouvent même pas le temps de le faire. Ils sont à la recherche de moments paisibles que l'on peut trouver ici. L'esprit de ma quinta, c'est la paix, le repos, le calme. Et en soirée, on s'installe avec un verre et on joue de la guitare. C'est ça l'esprit.
Esprit plus moderne à quelques kilomètres de là, avec un tout nouvel hôtel 5 étoiles qui a ouvert ses portes cet été, l'hôtel Pedras do Mar. Piscine intérieure et extérieure, spa, salon de massage, salle de sport et de jeux vidéo, tous les équipements sont là, mais le propriétaire de l'hôtel, Victor Camara, a veillé à utiliser un maximum de matériaux recyclables dans la construction de ce bâtiment aux lignes très simples, qui s'intègre plutôt bien sur la côte escarpée du nord de l'île.
Nous sommes les plus gros producteurs d'électricité solaire de l'île. Nous avons environ 500 panneaux et environ 80% de notre électricité provient du solaire. Pour les toilettes et les gazons, nous utilisons de l'eau de pluie recyclée. Si l'on prend le bâtiment, les murs extérieurs sont recouverts de liège et à l'intérieur, il y a un autre matériau qui permet une isolation acoustique et thermique. Grâce à cela, nous sommes beaucoup plus économes en énergie.
Aujourd'hui, l'hôtel, avec ses 125 chambres, emploie 50 personnes. Il fait partie de la vingtaine de projets d'investissement appuyés par les autorités locales pour faire face à l'afflux de touristes attendus après l'ouverture des lignes aériennes à bas coût. Il y a encore de la place pour d'autres, estime Victor Camara.
Le tourisme est notre seule alternative, mais au final, on ne fait pas grand-chose parce qu'on a peur de gâcher la nature. Bien sûr, n'importe quelle industrie, n'importe quelle activité qui apporte des emplois ou de la richesse aura un impact et aura de mauvais effets sur l'environnement. Mais le taux de chômage est très élevé dans les îles et il faut bien occuper nos jeunes qui n'ont pas de travail. Or, le tourisme est un grand pourvoyeur d'emplois.
Si ces derniers mois, le chômage a tendance à régresser aux Açores, il dépasse encore les 12% de la population active. Parmi les personnes sans emploi, près d'une sur deux a moins de 35 ans.
Accent, c'est déjà fini à la réalisation Ludivine Amado. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants. Les infos.